jeune Ward rentra en proie à une vive excitation et passa le samedi suivant à explorer la demeure d'Olney Court. Elle s'écroulait littéralement sous le poids des siècles. C'était une maison en bois de 2 étages et demi, très modeste, de type colonial, avec un toit pointu, une grande cheminée et une entrée joliment sculptée au fronton triangulaire supporté par 2 pilastres doriques. Ward fut troublé en songeant qu'il avait face à lui la demeure du détestable objet de ses recherches. Les occupants noirs ne lui étaient pas inconnus. Le vieil Asa ainsi que sa grosse femme Anna l'accueillirent très aimablement. L'intérieur, qui avait dû beaucoup changer, était très décevant en regard de ce que l'extérieur annonçait. Ward constata avec désolation que les magnifiques tablettes de cheminée et les armoires sculptées avaient pour la plupart disparu, que les lambris et les moulures en bois étaient rayés, cassés, troués ou encore recouverts d'un papier peint trop bon marché. D'une manière générale, si cette visite ne lui apporta pas ce qu'il en avait espéré, il trouva malgré tout émouvant de se trouver dans les murs qui avaient abrité son aïeul. Il fut bouleversé lorsqu'il remarqua que son monogramme avait été soigneusement effacé du heurtoir en cuivre de la porte. Après cette visite, Ward passa tout son temps à élucider le code de Hutchinson et à recueillir auprès des habitants de la région tout ce qui se rapportait à Joseph Curven. Si le manuscrit codé gardait son secret, du moins les informations qu'il récolta lui ouvrirent tant de nouvelles pistes qu'en juillet, il décida d'entreprendre un voyage à New London et à New York afin de consulter d'autres lettres dont il avait appris l'existence. Le voyage, très fructueux, lui permit de découvrir la correspondance de Fenner qui relatait l'attaque de la ferme de Pawtuxet, ainsi que celle des Nightingale Talbot, dans laquelle il apprit l'existence d'un tableau de Curven, peint sur une des boiseries de la bibliothèque. Cette histoire de tableau l'enthousiasma immédiatement. Il aurait donné n'importe quoi pour savoir à quoi son aïeul ressemblait. Il décida donc d'entreprendre de nouvelles fouilles dans la maison d'Olney Court afin de retrouver ce portrait, sans doute caché derrière des peintures plus récentes ou des couches superposées de papier peint moisi. Il organisa cette seconde visite au début du mois d'août et examina attentivement les murs de toutes les pièces assez vastes pour avoir pu abriter la bibliothèque de Curven. Il inspecta particulièrement le dessus des cheminées et c'est finalement dans un spacieux salon du rez-de-chaussée qu'il découvrit un panneau où d'anciennes couches de peinture s'écaillaient, laissant entrevoir un support plus sombre que le bois. Après avoir éliminé un peu de l'ancien revêtement à l'aide de son canif, il comprit qu'il venait de mettre à jour une grande peinture à l'huile. Ne voulant pas risquer d'endommager le tableau en tentant impatiemment de le révéler avec son couteau, le jeune homme décida de s'adresser à un expert. 3 jours plus tard, il revint avec un spécialiste en restauration de tableaux, M. Walter C. Dwight, dont l'atelier se trouvait au pied de College Hill. Il se mit aussitôt au travail avec des outils et des produits cette fois parfaitement adaptés. Le vieil Asa et sa femme regardaient avec curiosité ces étranges archéologues, et ils reçurent une confortable somme d'argent en dédommagement de l'invasion qu'ils subissaient. Au fur et à mesure que la restauration progressait, Charles Ward observait avec un intérêt croissant les lignes et les teintes révélées graduellement après un aussi long oubli. Dwight avait commencé par le bas, et comme le tableau était de 3/4 en hauteur, il fallut patienter un certain temps avant de distinguer le visage. En attendant, il apparut que le sujet était un homme mince, bien fait de sa personne, portant une veste bleue foncée sur un gilet brodé, des culottes de satin noir, des bas de soie blanc, assis sur une chaise devant une fenêtre d'où l'on apercevait au loin les quais et les bateaux. Quand la tête apparut enfin, mince, calme, portant une perruque, l'artiste et Ward lui trouvèrent tout d'abord un air vaguement familier. Mais à la fin de la restauration, quand les traits de ce visage maigre et livide devinrent clairement lisibles, le peintre et son commanditaire furent ébahis des tours que l'hérédité s'amuse à jouer parfois. Car à l'issue d'un dernier coup de papier de verre, d'un ultime bain d'huile, l'expression du visage, enfouie depuis des siècles, apparut pour confronter l'archéologue incrédule au passé qu'il fouillait inlassablement. Charles Ward était la réplique vivante de son horrible arrière-arrière-arrière-grand-père. Ward amena ses parents pour leur montrer la merveille qu'il venait de découvrir. Son père décida immédiatement d'acheter le tableau, bien qu'il fût peint sur un panneau de bois. La ressemblance avec le jeune homme était extraordinaire, malgré la différence d'âge et le siècle et demi qui les séparait. Madame Ward, quant à elle, n'avait rien de commun avec son ancêtre, mais elle se rappelait certains membres de la famille qui avaient une vague ressemblance avec le défunt Joseph et avec Charles, évidemment. Elle appréciait peu cette découverte et conseillait à son mari de brûler le tableau plutôt que de l'accrocher dans leur maison. Elle trouvait qu'il avait quelque chose de malsain. L'allure générale du modèle, sans doute, mais surtout cette ressemblance avec son fils. M. Ward était un homme d'affaires pragmatique. Il possédait plusieurs usines textiles à River Point, dans la vallée de Patuxet, et n'était pas du genre à prêter attention aux superstitions de sa femme. La ressemblance avec le portrait de son fils l'avait impressionné, il voulait lui faire ce cadeau bien mérité. Inutile de dire que Charles était du même avis. Quelques jours plus tard, il alla voir le propriétaire, une personne avec un accent guttural et un air de petit rongeur, et négocia la cheminée et le tableau pour un bon prix, coupant court à tout marchandage. Il ne restait plus qu'à démonter le tout et à le porter chez les Ward dans le bureau de Charles, au troisième étage, où toutes sortes de rénovations furent entreprises, notamment l'installation d'une fausse cheminée électrique. Charles eut pour seule mission de superviser les travaux qui furent confiés à deux artisans du décorateur Crocker. La cheminée et le panneau furent déposés avec le plus grand soin et transportés par camion. Cela dévoila une surface maçonnée dans laquelle Ward remarqua un renfoncement cubique d'environ un pied de côté qui se trouvait directement derrière le portrait. Curieux de ce que cette niche pouvait bien renfermer, le jeune homme s'en approcha et découvrit sous une épaisse couche de poussière une liasse de feuillets jaunis, un carnet assez épais et quelques morceaux de ruban moisi qui avaient sans doute servi à lier le tout. Il prit le carnet, souffla la poussière et les cendres et examina l'inscription sur la couverture. Elle était manuscrite, d'une calligraphie qu'il connaissait bien pour l'avoir étudiée à l'Essex Institute, et intitulait le cahier « Journal et notes de Joseph Curven, gentleman de Providence et jadis de Salem ». Excité au-delà de toute mesure par sa trouvaille, Ward montra le carnet aux deux ouvriers. Leur témoignage est très clair quant à la réalité de cette découverte sur laquelle le docteur Willett s'appuya pour affirmer que son patient n'était absolument pas fou à cette époque, même s'il allait bientôt se lancer dans toutes sortes d'excentricités. Tous les autres feuillets étaient également de la main de Curven. L'un d'entre eux semblait particulièrement important à cause de son titre. « À celui qui viendra après, comment il pourra maîtriser le temps et les sphères ?» Un autre était crypté. Le même chiffre, espérait Ward, que celui de Hutchinson qui lui résistait encore. Un troisième le fit sauter de joie car il semblait bien décrire la clé du chiffre. Les deux suivants étaient destinés respectivement à Edward Hutchinson et Jedediah Horn ou à leurs descendants. Le sixième et dernier manuscrit était intitulé « Joseph Curven, sa vie et ses voyages de 1678 à 1687, où il alla, où il séjourna, qui il vit, et ce qu'il a pris. »